Au micro aujourd'hui, Gérard Clément et moi-même Éric Barral, en régie, Raphaël Thiribillet. Pendant les 45 minutes qui vont suivre, nous allons nous intéresser aux questions de la recherche d'emploi et à tous les paramètres qui concourent à favoriser cet exercice ô combien difficile. Nos invités du jour ont bien sûr un lien avec la recherche d'emploi. Je remercie tout de suite Florence Jacques du CIDFF.
Oui, bonjour.
Faisal Bouhara du GEDACPLI.
Bonjour.
Sans oublier Monsieur Régis Poncic de la mission locale.
Bonjour.
Merci à tous de participer à cette émission. En plus, nous aurons la joie d'écouter les directrices de la Maison des Solidarités, Nelson Mandela, Mélanie Arnavon, et la directrice de la MPT Fambarlette, Voicila Idiri. Commençons tout de suite par vous, Florence Jacques. Donc, vous travaillez au CIDFF. Alors, rappelez-nous ce que veut dire ce sigle.
Alors, le CIDF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, une association qui existe depuis plus de 45 ans et qui est présente dans tous les départements en France, avec très rapidement deux grands secteurs d'activité, un secteur accès aux droits et lutte contre les violences faites aux femmes et un secteur sur lequel je travaille, donc l'emploi, formation, avec les touches égalité femmes-hommes qu'ils se doivent dans les accompagnements divers et variés.
Alors ce qui est important à dire, c'est que notamment au niveau de cette recherche d'emploi, les hommes sont aussi concernés, peuvent aussi s'adresser au CIDFF.
Alors au sein de l'offre de services, on a différents niveaux. Donc on a un temps de permanence, donc où nous accueillons et nous informons tout type de public. Vieux, jeunes, hommes, femmes, salariés, demandeurs d'emploi, suivis ou non par d'autres dispositifs. Et également, les femmes en reprise d'activité, puisque à l'origine, c'est à partir de ces publics que nos activités ont démarré.
Et justement, pourquoi vous êtes-vous aussi orienté vers les hommes ? Pourquoi ce changement ?
Alors, ce n'est pas nécessairement une orientation, c'est une évolution de la démarche qui n'est pas plus mal d'ailleurs.
C'est plus puisque
il y a 45 ans, quand les CIDF ont vu le jour, on était là pour donner des informations aux femmes, vu que leurs droits venaient d'évoluer. Et au fil des années, les femmes ayant leurs informations, les informations sur les droits, nous demandaient régulièrement des informations sur l'accès à l'emploi. Donc là, nous avons proposé des accompagnements spécifiques pour les femmes en reprise d'activité qui, au fil des années, se sont élargis puisque quand on parle de droits des femmes, on parle aussi d'égalité. Quand on parle d'égalité, on parle de la place des femmes et des hommes dans nos sociétés. Donc en fait, à partir de là, les permanences se sont ouvertes et aux hommes et aux femmes. Et depuis quelques années, les dispositifs d'accompagnement, puisque nous accompagnons également des publics, sur certains dispositifs, nous accompagnons des femmes et des hommes. Alors avec une plus grande proportion de femmes, mais pas mal d'hommes également.
Alors quelle est votre spécificité justement dans ce domaine de la recherche d'emploi, de l'accompagnement ?
Alors, la spécificité, c'est effectivement, comme je viens de le dire, c'est d'accompagner les femmes en reprise d'activité parce que souvent, ce sont les femmes, en grande majorité, qui s'arrêtent pour élever les enfants, qui suivent leur conjoint et qui, à un moment donné de leur parcours professionnel, ont des difficultés à reprendre une activité. Donc la spécificité, c'est ça a démarré à ce niveau-là et de travailler donc pour les accompagner sur les compétences acquises pendant les années où elles ont été mères au foyer, où elles ont suivi leur conjoint, elles ont pu être bénévoles sur des associations, elles ont pu avoir des tas d'activités personnelles. Donc en fait, on travaille à partir des champs personnels. Sur toutes les problématiques, les freins et les contraintes qu'elles peuvent avoir pour accéder aux premières étapes de la recherche d'emploi en lien avec l'ensemble des partenaires sur les territoires.
Justement, quels sont ces freins ?
Alors, les freins pour nombreuses femmes sont la garde d'enfants, parce que ben, souvent, c'est... Ben, voilà, c'est dans nos accompagnements, on a des femmes qui disent ben, j'ai mes enfants, ils sont dans telle classe, je vais reprendre une activité, mais là encore pendant quelques mois, j'ai besoin d'un accompagnement assez souple. Donc c'est ce qui fait notre différence avec d'autres dispositifs qui sont plus réguliers. Donc la souplesse de l'accompagnement ou effectivement les vacances ou certains jours, ben, ça sera compliqué de rencontrer ces femmes. La question de la mobilité. C'est alors en lien avec bien d'autres partenaires parce que la mobilité, c'est souvent un frein parce que toutes les femmes n'ont pas le permis. S'il y a une voiture dans le foyer, c'est pas toujours les femmes qui ont la voiture. Et donc, lié à ces deux contraintes les plus importantes, après, les organisations de vie en découlent. Donc, on travaille beaucoup sur la question de l'articulation entre les temps de vie personnel et professionnel. Et sur le deuxième champ, on travaille également beaucoup sur la question de l'élargissement des choix professionnels. Où, comme beaucoup le savent, les femmes s'orientent majoritairement vers certains métiers et les hommes s'orientent majoritairement vers beaucoup plus de métiers.
Et là, vous êtes un peu là pour rétablir un peu tout ça et dire, voilà, mais attention, hein, le champ des possibles est plus large que ça. Vous pouvez aussi vous orienter vers les métiers du bâtiment quand vous vous adressez à des femmes. Et aux hommes, vous pouvez aussi vous orienter vers les métiers du social.
Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ben, c'est un peu notre travail, c'est de se dire, bon, vous avez envie de quoi aujourd'hui ? Parce que c'est à partir de ça qu'on peut travailler. Donc, d'écouter vraiment les besoins des personnes et leurs envies, et puis de confronter justement ces envies à la réalité du marché de l'emploi en disant, bon, voilà, si on forme que des femmes au CAP petite enfance ou en secrétariat, il va y avoir la queue sur ces postes-là, puisque c'est pas nécessairement, même s'il y a du boulot et qu'il y en aura toujours, c'est pas nécessairement dans ces boulots qu'il y a le plus d'emplois. Donc il est intéressant pour tous les publics, bah, notamment les femmes, de savoir que sur le marché du travail au local, entre autres, bah, on peut trouver des métiers sur lesquels il y a beaucoup plus de recrutement. Donc il suffit juste d'éveiller la curiosité, donc de considérer justement l'origine de nos représentations pour pouvoir se donner la possibilité d'accéder à plus de chances et de tester d'autres métiers.
À quel moment s'arrête votre travail ?
Alors notre travail s'arrête. Alors il peut s'arrêter en cours de l'élaboration de projets professionnels pour orienter les publics qu'on a sur les accompagnements vers d'autres dispositifs, puisqu'on travaille avec Pôle emploi, on est partenaire du PLI, donc je laisserai mon collègue expliquer la démarche. On a quelquefois des accompagnements de jeunes, donc qui à un moment seront orientés vers les dispositifs de la mission locale. Donc en fait, on est en lien avec l'ensemble des dispositifs qui existent sur le champ de l'insertion professionnelle. Donc soit à un moment clé où on a besoin d'un dispositif, ou soit ben, la personne est assez autonome dans ses démarches pour avancer vers un dispositif qui lui sera utile. C'est de ne pas lâcher les personnes sur un dispositif quand ce n'est pas encore le moment. Et ça peut être au moment où la personne accède à l'emploi, accède à la formation, ou, alors j'en ai pas parlé, sur le champ de la création d'activité, on est vraiment sur l'amont du projet, l'adéquation projet-personne. Et là, on travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le champ de la création d'activité, où on aura préparé la formalisation du dossier, où les personnes pourront traduire les effets en chiffres, budget, statut, etc.
Merci Florence Jacques. Une dernière information pour vous contacter, que doit-on faire ? Téléphone, site internet ?
Alors on a un site internet qui n'est pas nécessairement à jour. On a, on a un Facebook, CIDFF26. Sinon, la meilleure solution, c'est de téléphoner au siège. Donc nous sommes sur Fonds Barlette au 04 75 82 06 10.
Merci, je transmets le micro à Gérard Clément. Gérard Clément qui, lui, rencontre maintenant Régis Poncic de la direction de la mission locale du Valentinois.
Régis Poncic, bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous un peu ce que fait la mission locale, ce qu'elle fait sur le terrain.
Alors, ce que fait la mission locale, bon, avec une petite historicité, la mission locale, c'est plus jeune, hein, c'est de 82, hein, c'est pas 45 ans. C'est une association de droit privé à délégation de services publics. Et vous avez quatre acteurs du service public de l'emploi en France, Pôle emploi, la direction du travail avec les directs au niveau départemental et régional, et Cap emploi qui s'occupe des personnes en situation de handicap, et les missions locales qui s'occupent plus particulièrement des jeunes, de l'accompagnement, et ça je tiens à ce terme, parce qu'on n'aide pas, parce que c'est parfois un peu condescendant d'aider les gens. Et je trouve que le terme accompagné est plus approprié. Les jeunes de 16 à 25 ans.
Et quand on a 26 ans, alors on fait quoi ?
Mais quand on a 26 ans, on va sur d'autres dispositifs, mais je crois qu'on va en reparler après dans nos échanges. Il y a quatre axes, l'orientation, la formation, l'emploi et le savoir-être. Et à l'heure actuelle, on parle même des polycompétences, parce que les entreprises, à l'heure actuelle, recherchent les polycompétences, c'est-à-dire la compétence spécifique à l'emploi, les compétences dites transverses, c'est-à-dire littératie, la numératie et le numérique.
Que ça veut dire quoi ?
Littératie, numératie, c'est la compréhension de la verbalisation ou de l'écrit. Voilà. D'accord. Et le numérique, être capable de travailler sur Internet ou d'avoir un ordinateur. Et après, vous avez le savoir-être.
Et c'est ce que demandent les entreprises.
Parce que à l'heure actuelle, c'est ce qui remonte des entreprises. Il y a un réel besoin.
C'est pas un peu un risque de formatage bien comme il faut pour pouvoir avoir une main d'œuvre docile auprès des entreprises ?
Non, parce que la logique, c'est de savoir vivre en commun dans une structure, de bien la connaître quand on arrive sur cette structure, de savoir vraiment quel est le process de cette structure et de pouvoir travailler en arrivant tout simplement à l'heure, de tout simplement savoir échanger. Et ça, c'est le savoir-être.
C'est apprendre à vivre dans une collectivité nouvelle.
Tout à fait. Et derrière, vous avez toutes les notions de logement, de santé et de justice, puisque nous avons un centre pénitentiaire sur notre ville et que nous avons une collaboratrice qui fait des permanences dans le centre pénitentiaire pour aider justement ceux qui sont à l'heure actuelle en milieu fermé pouvoir avoir un avenir dans le milieu ouvert, c'est-à-dire en dehors de la prison.
D'accord. Et ça se traduit comment en termes de moyens de la mission locale sur le terrain là ?
Alors, sur le terrain, alors juste avec une prise...
Le périmètre géographique de la mission locale.
On est sur 23 communes on va de Saint-Péray-Guy-en-Grange jusqu'au Chafal. Donc là, c'est quand vous montez vers Léoncène.
Oui, c'est un joli petit village là.
Tout à fait, la bergerie, le Chafal.
Et combien de personnel ?
Alors, nous avons à l'heure actuelle 36 collaborateurs qui sont répartis sur 3 sites.
D'accord.
Un site qui s'occupe de l'accueil et donc qui fait le diagnostic, qui est co-construit avec le jeune. Et on parlait tout à l'heure de réalité, donc de principe de réalité, hein, entre ce dialogue est fait. Ensuite, un site qui se trouve au niveau du forum où vous avez la garantie jeune, qui est un dispositif. Et ensuite, un dernier site, avec ce particularisme, on s'occupe aussi de bénéficiaires du RSA, à peu près 1400 personnes par an, donc là, nous avons une dizaine de collaborateurs qui s'occupent de ces personnes.
C'est une personne qui est de tout âge.
À ce moment-là, de tout âge. Voilà.
Et vous voyez combien de jeunes par an ?
Nous en sommes à l'heure actuelle à 2000 jeunes, sur lesquels nous assurons un accompagnement.
Et qu'est-ce que c'est que la mission d'accompagnant que vous entendez, que vous définissez ?
Alors, la mission locale, elle se définit sur 16-25 ans, et donc il y a une notion de parcours. Et la mission locale a des dispositifs en son sein, fait des appels à projets. Dernièrement, on a fait Sporim, par exemple, pour acquérir avec des structures d'insertion. Il y avait une logique de mobilité, mais le PLI en parlera beaucoup mieux que moi. Mais aussi de pouvoir acquérir par le sport certaines valeurs aussi. On a le dispositif de la garantie jeune. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la mission locale est assemblier et ensemblier. C'est des barbarismes, mais qui veulent tout simplement dire qu'on a des dispositifs, mais aussi notre cœur de métier, c'est de travailler en relation avec d'autres structures. Je veux pour preuve l'école de la deuxième chance, le DEDACPLI, le CIDFF qui était encore ce matin dans nos locaux au niveau de la garantie jeune. Et en fait, il y a tellement de très bonnes idées et de belles structures que c'est pas la peine de recréer à notre niveau des choses qui existent déjà. Donc on travaille la main dans la main avec les autres structures.
Et c'est organisé tout ça, c'est, quand vous dites de travailler la main dans la main, ça vient de votre initiative ou c'est quelque chose qui vous est imposé?
Alors ça vient de l'expérience, ça vient d'une vraie volonté des directions et des conseils d'administration. On a même fait des séminaires avec le 2C et le DEDACPLI. Où ce que l'on souhaite vraiment, c'est que chaque conseiller soit parfaitement au courant de ce que font les autres structures, parce que l'objectif, et je le présuppose pour toutes les structures, c'est de trouver la meilleure réponse aux aspirations de la personne qui était en face. Et donc, si on connaît tous les dispositifs, on est plus à même de mieux renseigner et de mieux accompagner.
Et on peut vous visitez comment? Vous joindre comment?
Nous avons un Twitter, nous avons un Facebook. Vous tapez Mission Locale Valence, vous tomberez tout de suite sur nos sites. Et autrement, il y a le site principal qui est le site Gangloff et il suffit de téléphoner au 04 75 82 01 80 et vous tomberez sur l'accueil qui vous aiguillera.
Merci Régis.
De rien.
Voilà, cette émission Échange et Regards en est à la moitié de son parcours. Une petite respiration musicale et nous retrouverons cette thématique de la recherche de l'emploi.
Trouvons tout de suite Éric Barral ainsi que Gérard Clément pour leur émission Échange et Regards.
Merci Raphaël. Un Échange et Regards réalisé dans la MPT, dans les studios que nous avons installés dans la MPT Fond Barlette à Valence. La suite donc de cette émission consacrée à l'emploi avec Monsieur Faisal Boussara du DEDACPLI. Bonjour.
Bonjour.
En deux mots, présentez-nous cette structure.
Alors, le DEDACPLI, c'est une association qui a maintenant plus de 20 ans. Nous avons fêté les 20 ans en 2013 et qui est présidée par l'adjoint au maire de Valence, délégué à l'emploi. C'est une association qui porte différents dispositifs qui ont tous pour but de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes qui sont en difficulté sur le marché du travail.
Alors justement, favoriser le retour à l'emploi, alors c'est pas en travaillant directement sur la recherche de l'emploi, mais vous travaillez énormément sur l'individu, la personne et les problèmes qu'il rencontre, même en dehors de cette recherche d'emploi.
Tout à fait, parce qu'on constate qu'au-delà des freins principaux à l'emploi qui sont donc le manque de qualification ou le manque d'expérience, il s'avère qu'il y a des personnes qui rencontrent d'autres freins, des freins périphériques. Ça a été évoqué ce matin donc par ma collègue du CIDF.
Ce matin ?
Il y a quelques instants, pardon.
Je crois que c'était dans une autre réunion.
Tout à fait, c'est évoqué à longueur de temps dans nos métiers. Donc effectivement, on a des personnes qui rencontrent des freins qui peuvent être d'ordre, on a parlé de problèmes de garde d'enfants, des problèmes qui peuvent relever de la mobilité, j'y reviendrai un peu plus tard. Des freins qui relèvent du savoir-être, bon, on revient sur souvent les mêmes choses parce que il s'avère qu'aujourd'hui les entreprises, certes, elles recherchent des personnes qui ont des compétences, mais actuellement, vraiment, on se retrouve de plus en plus avec des entreprises qui nous disent, au final, les compétences, effectivement, ça a son importance, mais c'est plus le plus important.
Et le plus important,
c'est de pouvoir avoir des personnes qui Alors, on va commencer par le B.A.B.A. qui ont la motivation, qui sont là à l'heure, qui font leur travail et qui ont une attitude, j'allais dire, qui va pas aller à l'encontre de la culture de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Bref, c'est un ensemble de choses qui font qu'il y a nécessité de travailler sur ces éléments-là. On part du constat que ben, l'entreprise se dit « je vais recruter quelqu'un » même si elle n'a pas toute la technicité, toutes les compétences fondamentales, elle va pouvoir les apprendre. Par contre, il y a certains freins, notamment ceux que je viens d'évoquer, qui parfois, si on ne travaille pas dessus suffisamment en amont, ben, peuvent perdurer et vont vraiment, véritablement constituer un réel problème à l'intégration de la personne en entreprise. Et bien souvent, les entreprises, elles sont réticentes justement sur ces aspects-là. Et toute la vocation du PLI, effectivement, c'est de travailler sur ces problématiques-là. Donc, comme
vous disiez, de quelle façon, alors, voilà, concrètement ne me dites pas que vous reformatez quand même les personnes.
Non, on a aucunement ni l'ambition, ni la prétention de reformater les gens. Les personnes, j'allais dire, restent telles qu'elles sont. Simplement, ce que l'on fait, c'est transmettre des conseils, transmettre tous les éléments qui vont pouvoir faire en sorte que la personne aura le plus de chances possible de trouver un emploi et puis surtout d'y rester.
Alors du concret s'il vous plaît.
Alors concrètement, nous on a différents dispositifs, on a 5 dispositifs principaux, dont le dispositif du PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi, qui consiste en fait à un accompagnement renforcé. Les personnes qui vont entrer dans le PLI vont être accompagnées de façon individuelle et elles vont être vues de façon à une fréquence relativement importante, ça peut aller de 1, 2, voire 3 fois par mois, de façon justement à pouvoir alterner durant cet accompagnement des actions de découverte de métier, des actions de formation, des actions de remobilisation autour d'un projet professionnel, parce qu'il s'avère qu'il y a des personnes qui, au bout de temps de recherche d'emploi, ont finalement un petit peu décroché, ne sont plus motivés, ont perdu un petit peu espoir. Donc c'est mettre en place des actions pour remobiliser ces personnes. Et puis, au cours de cet accompagnement, justement, il y a tout un travail qui est fait pour lever les freins que la personne peut rencontrer par ailleurs. Donc durant tout ce parcours, PLI, je reprends la notion de parcours qui a été prise ce matin parce que c'est véritablement une construction de parcours professionnel. La personne va soit donc découvrir des nouveaux métiers, soit vraiment préciser son projet professionnel. On va mettre en place des actions de formation qualifiantes. Et puis, on va s'assurer, tout du moins s'efforcer de donner à cette personne-là tous les clés qui vont faire qu'en entreprise, elle n'aura pas justement ces freins qui vont l'empêcher de s'intégrer et puis de travailler durablement. Parce qu'à terme, vraiment, l'objectif du PLI, c'est de faire en sorte que les personnes puissent aller vers l'emploi durable.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais parlez-nous de la mobilité. Justement, ça, oui, c'est un frein important, la mobilité.
Effectivement,
comment
la mobilité,
vous vous aidez?
Alors, nous, on porte la plateforme mobilité en Drôme Ardèche. Alors, c'est une plateforme qui a pour ambition de recenser l'ensemble des aides qui existent sur le territoire en matière de mobilité. L'ensemble des solutions de transport qui peuvent exister aussi. Alors, c'est important parce qu'on sait qu'un demandeur d'emploi sur deux a refusé un emploi ou une formation faute de pouvoir s'y rendre. Donc, effectivement, c'est une thématique, nous, sur laquelle on travaille d'une façon de plus en plus importante pour aboutir à la création de cette plateforme. Et à l'intérieur de cette plateforme, il y a des sous-dispositifs, j'allais dire. On porte une auto-école d'insertion qui va permettre à des personnes qui ont justement des difficultés dans l'apprentissage de pouvoir passer le corde, puis ensuite passer le permis. Il y a une pédagogie qui est
adaptée, c'est un enseignement adapté.
Tout à fait, voilà. On a un dispositif qui s'appelle A tout permis. On travaille en partenariat avec le FASTT, le Fonds d'action sociale du travail temporaire, qui permet à toute personne qui a ne serait-ce réalisé qu'une heure de travail en intérim de pouvoir bénéficier d'aides financières et là aussi d'un accompagnement, d'un coaching, un véritable coaching au code et au permis. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qui est fait, les personnes sont contactées, on s'assure qu'elles progressent effectivement dans leur passage du permis. Et puis on a également donc des permanences, des conseillers mobilité qui sont là, qui reçoivent des personnes qui sont orientées par nos partenaires, qui sont le service public de l'emploi, la mission locale, le pôle emploi, le CIDF notamment, puis l'ensemble des structures qui travaillent sur le champ de l'action, de l'emploi, de l'insertion sur le territoire.
Merci beaucoup, M. Boussara. Là, vous avez abordé vous avez dit encore quelque chose.
Alors, on a d'autres dispositifs, mais effectivement...
Et on a plus trop de temps, mais... Allez, un dernier.
Allez, un dernier dispositif. On porte le dispositif qui s'appelle « Sans chance, sans emploi ». Alors, sans le chiffre. Sans chance, sans emploi. C'est constitué d'un réseau d'entreprises sur le territoire. On a une cinquantaine d'entreprises qui se sont engagées, en fait, à faire du parrainage, de parrainer des jeunes de 18 à 30 ans. Et de leur proposer soit des stages, soit des contrats d'alternance, soit des CDD, même des CDI. C'est un dispositif qui fonctionne très bien. Donc tout jeune de 18 à 30 ans qui a, on en revient par contre sur ce dispositif-là, les codes de l'entreprise et qui a un projet professionnel. Je ne parle pas de qualification, je ne parle pas de diplôme, simplement un projet. Donc il peut intégrer ce dispositif et puis il aura cette cinquantaine d'entreprises qui seront là pour l'écouter et pour soit leur proposer directement des offres au sein de leur entreprise, soit les entreprises se contactent entre elles, elles se connaissent, trouver des solutions emploi auprès de leurs collègues entreprises par ailleurs. Donc c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui s'adresse à tous les jeunes de 18 à 30 ans et notamment les jeunes qui résident dans les quartiers politiques de la ville, donc Fombarlette, Le Plan, Polygone, Chamberlière, Valençon, pour ne pas l'oublier.
Merci beaucoup, monsieur Boussara. On va